Les taxis sont mécontents, on vous explique pourquoi dans cette édition un club de football professionnel pourrait se monter au Fénois, on vous dit comment. Et puis on revient sur le sauvetage du disparu de la Papenouf. Le journal de la mi-journée, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Le disparu de Papenno a été retrouvé vivant.
Oui, 72 heures après sa disparition, Papa Moari a été retrouvé ce matin grâce à l'appui d'un drone, nous apprend TNTV. Ce chasseur expérimenté n'avait plus donné de signe de vie depuis mardi soir après s'être séparé de son groupe pour aller chasser le sanglier. Il a été repéré à flanc de falaise et attend désormais d'être élitreillé, nous dit la chaîne de la mission.
On poursuit par ces négociations sous tension cet après-midi.
Oui, des négociations entre le ministère des Transports et la coordination des taxis, le syndicat de taxis des îles du Vent. Ce n'est pas la première fois que les chauffeurs jouent du klaxon auprès des autorités. Rien que cette année, il y avait déjà eu des interpellations et des discussions en avril ou en juillet. Mais cette fois, les représentants de la profession affichent leur détermination. Et avant même de rencontrer Jordi Chan ce vendredi à 15h30, ils ont décrit leur plan de mobilisation. Une première opération escargot ce dimanche dans la zone urbaine qui ne devrait pas perturber beaucoup la circulation. Et surtout, si ça ne suffit pas, les chauffeurs reviendraient bloquer les routes à la rentrée des vacances scolaires, cette fois en semaine et en matinée. Et forcément, ça pourrait bouchonner. Et la question, Charlie René, c'est qu'est-ce que veulent obtenir les taxis avec ces menaces?
Eh bien, les revendications sont multiples, Valdemar. Mais s'il fallait le résumer, les taxis veulent moins de concurrence. Moins de concurrence d'abord sur ce qu'ils appellent les taxis pirates. Il y a d'abord les applications de covoiturage, dont certaines sont accusées d'être des Uber déguisés. La question avait été déjà très débattue en début d'année. Il y a surtout les véhicules de transport touristique. Vous savez, ceux qui affichent un T rouge sur leur pare-choc arrière. Des professionnels qui obéissent à un autre statut que celui des taxis, un peu moins contraignant réglementairement, et qui sont censés travailler avec des hôtels ou des agences de voyage et pas proposer leurs services à la volée. Or, la coordination des taxis se plaint de les voir se mettre dans ces lignes réservées devant les grands hôtels, d'aller chercher des passagers locaux dans les quartiers et parfois même d'utiliser un taximètre. Bref, de leur piquer des clients, comme nous l'expliquait hier le conseiller technique de l'organisation Bob Carpentier. À l'entendre, il vaut mieux cadrer cette activité. Il faut aussi finaliser la loi du pays entamé à ce sujet avant le Covid et qui est depuis laissé de côté. Il faut surtout arrêter d'accorder des licences de transporteurs touristiques, un gel des nouvelles autorisations en attendant une loi qui durcit les règles. Voilà la revendication principale de la coordination, Valdemar.
Et paradoxalement, les taxis trouvent aussi qu'il y a trop de concurrence des autres taxis. Les autorités accordent là aussi trop de licences au goût des chauffeurs déjà installés, en tout cas ceux qui sont dans la zone urbaine de Papeete. Un système de numerus clausus ou de limitation doit être étudié, c'est ce qu'explique la coordination des syndicats. Il faut aussi agrandir les parkings réservés aux taxis, mieux les mettre en valeur auprès des usagers. C'est déjà ce qui avait été demandé à la présidence en juillet. Et si le sujet n'a pas beaucoup avancé, c'est qu'il est plus complexe qu'il n'y paraît, Charlie.
Eh oui, car si les taxis se plaignent, les clients aussi. Il y a la question du tarif des courses, toujours jugé élevé par beaucoup de locaux qui sautent sur toutes les autres options, même moins formelles. Il y a surtout la question de la disponibilité. Dans le secteur touristique, on explique régulièrement que les taxis ne répondent pas ou pas assez vite à certaines demandes des voyageurs, notamment pendant les horaires de nuit. On dénonce aussi un certain retard technologique sur les autres pays où tout le monde peut commander, localiser et payer un taxi ou un véhicule avec chauffeur avec son smartphone. La coordination des taxis avait bien commandé une application numérique de ce type. Elle avait commencé à être déployée, mais un désaccord tarifaire avec le concepteur a poussé les professionnels à s'en retirer massivement. Bref, les taxis polynésiens ont aussi du mal à rentrer dans la modernité et le gouvernement doit veiller à ce que ça ne soit pas un frein au développement touristique, Valdemar.
Voilà, beaucoup de sujets de discussion cet après-midi au ministère des Grands Travaux et des Transports. Donc.
En football, l'AS Vénus veut lancer son équipe professionnelle.
Oui, souvenez-vous, début décembre, nous vous annoncions sur Radio 1 les contours du futur championnat professionnel que l'OFC veut lancer dans toute l'Océanie. Il va débuter en janvier 2026 avec entre 8 et 10 équipes venues de toute la région. L'appel à candidature va être lancé le mois prochain par l'OFC. Une réunion d'information a eu lieu hier soir au siège de la Fédération Tahitienne de Football. La fédération aurait pu proposer une équipe, mais elle ne le fera pas. Elle aura en revanche un rôle d'accompagnement dans le projet. Et venue en force, la délégation de l'AS Vénus a officiellement annoncé son intention de présenter sa candidature. Candidature qui pourrait prendre la forme d'une équipe appelée Tahiti United en association avec un autre club. L'équipe de Mahina travaille sur le sujet depuis plusieurs mois. Elle a des partenaires potentiels pour boucler le budget, mais elle a encore de nombreuses questions et n'a pas forcément obtenu toutes ses réponses hier soir, et notamment en ce qui concerne les retombées économiques pour les éventuels sponsors. Écoutez Samuel Garcia, manager général de l'AS Vénus.
Ça représente entre 100 et 120 millions an et quelque chose choses qu'on doit présenter pour pouvoir attirer des partenaires, que ce soit des partenaires étrangers ou des partenaires locaux. On a besoin d'avoir des réponses qui sont concrètes. En termes d'image, en termes de retour d'image, en termes de sponsoring, c'est des questions qui nous reviennent. Donc oui, sportivement, oui, au niveau des infrastructures, oui, au niveau de l'encadrement, c'est une chose, on n'a pas de crainte là-dessus. Mais on a besoin d'avoir un retour sur les questions qui ont été posées ce soir, parce que c'est des éléments qui sont primordiaux.
Autre point, la question juridique du contrat des joueurs et de leur statut. Il va falloir pour cela entamer des discussions avec le pays. Enfin, la question du calendrier pose aussi, notamment pour permettre aux joueurs de la Ligue Pro, qui devraient être mobilisés pendant 7 à 8 mois, de revenir jouer la Ligue 1 amateur une fois leur saison pro terminée. Outre Vénus, deux autres clubs étaient représentés hier soir, Tefana et Pirée. Une fois les candidatures bouclées, l'OFC annoncera le nom des équipes retenues en septembre avant un événement de lancement en octobre 2025. La première saison de la Pro League débutera en 2026 avec des équipes probablement déjà annoncées de Fidji, de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore du Vanuatu.
L'opérateur Vini est prêt à affronter l'afflux des fêtes de fin d'année.
Oui, comme à chaque fois, à la même période, la société note un pic d'activité sur les réseaux téléphoniques au Fénois. Les appels augmentent de 14 à 20% le 24 décembre, tandis que les SMS explosent de 150% à 167% au réveillon du nouvel an. Entre le 20 décembre et le 6 janvier, période qualifiée de sensible, Onati suspend donc ses opérations de maintenance programmable. Écoutez Thierry Morel, responsable du service révision des réseaux.
Notre attention particulière, elle va être sur ce qu'on appelle les cœurs de chaîne, c'est-à-dire tous les équipements qui gèrent le trafic et qui gèrent les abonnés. Ensuite, on vérifie les grosses artères vers l'international et vers les différents sites que l'on a en Polynésie.
Thierry Morel précise aussi que tout le réseau est traité de manière équitable et que cette surveillance accrue est valable tant dans les zones urbaines que rurales.
On vous parle maintenant de ce bâtiment qui prend forme du côté de Papéry.
Ce bâtiment, c'est l'espace scénographique Gauguin. Rappelez-vous, on en avait parlé de ce projet qui venait en quelque sorte remplacer le musée Gauguin, fermé depuis plusieurs années près du jardin botanique. Le nouvel espace n'est pas un musée, mais il offrira tout de même au public une exposition permanente et un parcours pédagogique sur les pas du grand peintre des tropiques. Et il se situe, lui, à l'intérieur des jardins. Une fois qu'il sera fini, il constituera même la porte d'entrée de l'espace botanique Harrison Smith. Alors cet espace scénographique, on ne le connaissait jusqu'à maintenant que par les vues d'architectes plutôt réussis qui avaient été diffusées avant le Covid. Forcément, la pandémie a retardé et renchéri ce projet de 1600 m², désormais chiffré à 1,95 milliard de francs et dont la construction a réellement débuté au troisième trimestre de l'année dernière. Les terrassements, les fondations et travaux techniques sont faits. Les grandes charpentes métalliques qui pointent vers le ciel sont désormais installées. Les premières toitures en bois ont même fait leur apparition sur le site de Papéry. Bref, ça avance bien, comme s'en félicite Grand Projet de Polynésie en charge du chantier. Le temps de finir le bâtiment et surtout de l'aménager du point de vue technique et scénographique, l'espace Gauguin ne sera pas opérationnel avant la fin 2025, voire les premiers mois de 2026. Quant à l'ex-musée Gauguin, de l'autre côté des jardins, les réflexions sont en cours sur son avenir. Si le bâtiment est réutilisable, il pourrait être transformé en espace d'interprétation botanique. La mairie de Tevaïuta a aussi des projets pour cette zone.
Un nouvel espace de détente et de convivialité surtout pour les habitants de la presqu'île vient d'être inauguré.
Il s'agit du parc Teafa, situé à l'embouchure de la rivière Veitepia. Il permet aux visiteurs de profiter d'un accès au cours d'eau et au lagon. Sur 3 hectares, on retrouve un parking de 50 places, des sanitaires, des douches extérieures, mais aussi des chemins piétons et un espace dédié aux pêcheurs. Coût total de cet investissement, 252 millions de francs, dont 90 millions financés par l'État dans le cadre du contrat de développement. Teafa est ouvert au public de 6h à 17h30 en semaine et de 6h30 à 18h30 le week-end et les jours fériés. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. J'en profite pour adresser un message à la prudence sur les routes puisqu'on nous a indiqué un accident sur la RDO vers l'entrée de Papeete en direction de Punaouia. Le prochain point avec l'information locale, c'est le flash de 16h.
Merci Valdemar pour ce journal. Maintenant, c'est votre météo sur Radio.